Alors donc, on commence par soutenir la transformation pédagogique d'un projet établissement à l'AMU, donc ex-Marseille Université, à un projet de réseau, le réseau RENAPSUP, que certains d'entre vous connaissent et dont certains d'entre vous faites déjà partie. Donc c'est Anne de Mester qui vient intervenir pour nous sur ce réseau.
Merci Catherine. Donc avant toute chose, merci pour votre invitation. Donc je suis très heureuse de retrouver des collègues et puis d'en rencontrer d'autres. Hein, c'est toujours très enrichissant. Donc on s'est présenté tout à l'heure, du coup ça va un petit peu plus vite. Alors je pense que je suis arrivée un petit peu en retard ce matin, je n'ai pas entendu parler Patricia, mais elle a sûrement dû évoquer avec vous le changement de paradigme dans lequel nous nous inscrivons nos démarches à l'heure actuelle, puisque d'une approche traditionnelle où on a des disciplines, des listes d'intitulés de cours et puis des enseignants qui ne se consortent pas forcément avec les pairs, eh bien on veut passer à une approche programme où les enseignants s'entendent dans une approche, une vision collective, partagée du jeune diplômé et où les disciplines vont converger vers une finalité commune, donc où il y aura beaucoup plus d'interdisciplinarité. Alors qu'on soit en approche programme ou en approche par compétences, il faut c'est un peu la même façon de faire, si ce n'est que au bout c'est les compétences qu'il y aura, ou même en amont c'est les compétences qu'il y aura pour redescendre à la conception du programme qui doit également être collaboratif. Donc l'approche programme peut conduire à l'approche par compétences. Alors, je vais vous présenter un petit peu notre université qui est une très grande université. Il paraît que c'est la plus grande université de la francophonie. Elle a été fusionnée, c'est la fusion de trois universités d'Aix-Marseille, 1, 2, 3, en 2012. Donc la fusion est quand même derrière, ce qui veut dire que c'est un contexte facilitant pour travailler entre composantes. Elle est implantée par contre sur un territoire extrêmement étendu qui dépasse le département des Bouches-du-Rhône et qui compte 50 sites différents d'implantation, donc 19 composantes, 74 000 étudiants, 8 000 personnels, une offre de formation qui couvre les 6 grands secteurs disciplinaires de l'université, et nous sommes dans l'accréditation Vague C. Donc c'est en 2018 qu'il faut y aller. Alors, le contexte de l'expérimentation approche par compétences qui a été lancé par notre université en 2016 concerne le futur contrat 2018-2023. Donc notre président Yvon Berland a plusieurs fois dit son souhait pour notre offre de formation. Il souhaite qu'on la repense, qu'on la change, qu'on fasse preuve de créativité, d'innovation. Et puis, pour préparer cette période d'accréditation et cette transformation de l'offre, on a un grand schéma directeur de l'offre de formation avec 11 ateliers thématiques différents. Il y a eu plus de 200 réunions, donc qui ont concerné vraiment les enseignants et les responsables de formation des composantes. Ils ont réuni par thème et puis par approche aussi plus transversale. Et donc, il y a vraiment une construction collaborative. Et c'est d'un de ces ateliers qu'a émergé l'idée. Et si on passait par les compétences, si on se lançait dans l'approche par compétences. Donc, vous voyez qu'il y a... C'est pas seulement une démarche bottom-up, ça a aussi été une démarche top-down, et les deux se sont rejoints sur un terrain d'entente qui serait l'approche par compétences. Alors, je vous ai dit qu'il y avait 19 composantes, donc il y en a 15 qui jouent le jeu, qui ont été invitées à s'intégrer dans cette expérimentation à très grande échelle, mais ce sont que des démarches volontaires. Alors, volontaire, c'est-à-dire le président a dit qui a envie d'y aller, les doyens ont répondu et à l'intérieur ils ont désigné des référents, mais quand même on a des projets extrêmement différents. Donc voilà, je vous ai un petit peu mis les intitulés des composantes. Donc il y en a quelques-unes qui ne jouent pas. Donc il y en a qui sont hors concours parce qu'ils ont déjà tellement avancé, comme le centre de musiciens des formateurs, des intervenants. Centre de formation des musiciens intervenants. Donc eux, ils viennent témoigner de ce qu'ils ont déjà fait, mais bon, c'est une toute petite composante et donc c'est pour ça qu'elle joue pas. Après, il y a médecine qui veut pas rentrer dans ce projet. Maïeutique avait déjà beaucoup avancé, mais là ils sont dans une période un petit peu transitoire, disons, avec changement de directeur. Et il y a encore une composante qui est l'IRT, qui elle n'a pas d'étudiants. C'est l'Institut régional du travail. Alors, la mise en place du dispositif d'accompagnement depuis février, eh bien, j'ai été désignée comme chargée de mission de l'approche par compétences, donc je suis rattachée au centre d'innovation pédagogique. J'assure la mise en œuvre et le suivi de cette expérimentation à l'échelle de l'établissement et je travaille en lien très très étroit avec notre vice-président formation et d'autres vice-présidents aussi. Et en plus, on a associé la mission RNCP parce que c'est plus cohérent et que ça parle effectivement des compétences, comme tu le disais ce matin, Patricia. Donc voilà, je suis Miss Compétences SAMU. Alors, comité de suivi de l'APC, ça, c'est quelque chose qu'on a très rapidement mis en place. C'est la réunion des référents des composantes qui ont été désignés. D'abord un, puis après à l'UFR Sciences, on avait une référente. Et puis maintenant, il y en a 5 ou 6, vous voyez. Donc ça, c'est un petit peu étendu. Donc un comité par mois. Et puis ensuite, on a le centre d'innovation pédagogique et d'évaluation qui est chargé de répondre aux demandes des équipes et des enseignants sur le plan pédagogique, voire numérique, quand il y a besoin et que c'est lié, et pour des réponses adaptées. Donc ça, c'était au départ ce qu'on avait imaginé. Alors moi, quand on m'a confié la mission, je me suis dit, il faut vraiment que j'aille dans chaque composante, que je rencontre les référents, que je discute avec eux. Et puis je me suis mis dans une petite démarche un peu exploratoire avec une méthodologie, un questionnaire. J'ai posé les mêmes questions à tout le monde, un entretien semi-directif. J'ai donné les questions en amont pour que les gens se préparent. Et pendant un mois, voilà, je me suis déplacée sur tous les sites et c'était très enrichissant. Et j'ai mesuré la différence de culture propre à chaque établissement. Donc ça m'a permis de bien appréhender le contexte. Donc j'ai pu recueillir des données sur le projet de transformation qui était envisagé, à quel niveau, licence professionnelle, master, tout, ou seulement une partie, identifier les forces, les freins, les besoins, les attentes, les suggestions, et en annonçant toujours que moi j'étais dans une posture d'accompagnateur, de facilitateur, de conseiller, hein, donc quand je pouvais apporter quelque chose, mais que mon idée c'était vraiment que les équipes construisent, s'emparent, s'approprient, donc avec mon aide bien sûr pour les guider, les orienter, mais voilà, c'est pas moi qui arrive en disant voilà on va faire comme ci, comme ça, et puis dans le respect donc de chaque projet et de chaque culture. Alors ce qui est ressorti, je vous la fais courte parce que je pourrais discuter 40 diapos sur l'expérimentation, c'est une grande hétérogénéité des projets. Pensez bien qu'à à l'échelle d'un tel établissement, voilà, il y a vraiment des choses très différentes. D'abord dans les compétences visées, hein, parce qu'il y a des parcours qui sont vraiment professionnalisants, donc on a des compétences professionnelles clairement affichées. Je pense aux licences pro de l'IUT par exemple. Ensuite, on peut avoir des composantes comme les licences générales de droit ou certaines licences de sciences où on a plutôt des compétences de poursuite de parcours, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut pour rentrer et réussir dans un master. Ensuite, suivant le nombre de diplômes qu'on implique, plus ou moins, voilà, je vous ai mis quelques exemples des composantes, ce qu'elles offrent, elles engagées. Et donc, on va avoir d'autant plus d'étudiants, d'autant plus d'enseignants qui vont être impliqués dans cette démarche de transformation. Et puis, des contextes pédagogiques très variables d'une composante à l'autre. Donc, beaucoup sont dans l'approche cours. Certains travaillent déjà en équipe. Tous les parcours n'ont pas encore d'activité intégratrice, mais nombreux ceux qui en ont et qui ont vraiment pensé des choses très, très complètes, très englobantes. Donc, moi, j'ai aussi fait remonter ces aspects très positifs parce qu'il se passe plein de bonnes choses qui ne remontent pas jusqu'à la gouvernance. Hein. Il y a des profs qui ont beaucoup, qui sont motivés, qui sont organisés, qui commencent à travailler aussi ensemble pour des projets communs. Et puis, tous ne disposent pas non plus d'un référentiel métier. Je crois que c'est Catherine tout à l'heure qui nous a montré un petit peu l'articulation. Cet exercice qu'il faut faire pour passer du référentiel métier au référentiel de formation. Et ça facilite les choses, mais tout le monde n'en a pas. Alors, quelle motivation ? Les enseignants veulent plus de cohérence, plus de lisibilité, donner du sens. Tout le monde est d'accord là-dessus. Il n'y a pas beaucoup de réfractaires, à vrai dire, même s'il y a des freins. Et il y a aussi l'accréditation. Ça s'agite un petit peu quand même les gens, ça les motive. C'est que de toute façon, là, il y a quand même une obligation de faire des choses. Ensuite, il y a le feedback du monde socio-économique qu'on a invité à parler. Donc se dire que peut-être les jeunes diplômés de l'université ne sont pas suffisamment bien identifiés comme étant compétents, ne sont pas forcément dans l'université, mais pas forcément dans les réseaux où les recruteurs potentiels vont venir chercher leurs futurs employés. Et puis, il y a l'exigence des accréditateurs externes. Je pense à ceux qui ont des diplômes normes ISO, les commissions des titres d'ingénieurs, l'IAE qui a 3 accréditateurs externes aussi. Donc ça booste un petit peu. Après, les forces, c'est que dans cette grande université, il y a beaucoup de ressources internes et que la fusion, elle est réussie, elle est derrière nous. Donc on peut faire des critiques sur la fusion, mais quand même, c'est du passé maintenant. Donc les gens ont appris à travailler ensemble et on n'en est plus... c'est un truc en moins, disons, parce qu'il y a des gens qui sont actuellement en train de transformer, qui sont aussi en train de fusionner. Donc c'est peut-être moins facile. Donc on a... Voilà, ça je vous l'ai déjà dit, je pense. Les freins. Eh bien, commun à toutes les composantes. Ça, c'est partout, on retrouve les mêmes freins, les mêmes craintes, les mêmes peurs, à moyen constant, et comment on va faire, et puis comment on va évaluer. Donc, tout le monde ressort les mêmes choses, et notamment aussi dans la posture, est-ce que je serai capable, ou est-ce que, moi, passer d'un cours magistral à un cours où je vais venir faciliter les étudiants, est-ce que je ne suis peut-être pas forcément d'accord aussi. Donc, ça touche à l'autonomie, la liberté des enseignants. Alors, les besoins, les attentes, on m'a demandé d'abord, on m'a dit, on veut des ressources, on veut savoir, on veut comprendre, on veut de la bibliographie, on veut que tu nous accompagnes, on a besoin de formation, on veut que, voilà, on respecte le niveau d'engagement qu'on mettra, même si on met qu'un parcours, voilà, on veut rester maître de ça, donc on a rédigé une note de cadrage pour justement garantir aux gens que l'université s'engageait à les laisser libres au sein de leurs composantes à définir ce qu'ils allaient faire. Et puis une aide externe aussi avec des experts, des conseils de perfectionnement avec des professionnels, les autres universités, je vais en arriver bientôt au réseau. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait un comité de suivi mensuel, donc comme je vous disais tout à l'heure, Eric fait partie des référents qui se réunissent tous les mois. Donc là, il y a des apports de ma part ou de la part d'autres membres du comité. Moi, j'essaie de plus en plus de leur laisser la parole. Des questions, on fait remonter les questions, des retours d'expérience, des témoignages de ceux qui ont un peu avancé ou beaucoup avancé. On a créé une box, une AMU-box, comme on dit chez nous, donc c'est un espace de partage, on a un espace réservé où tout est bien rangé, catégorisé, avec de la bibliographie, des ressources, des projets qui commencent à enrichir les ressources pour les autres. Des productions, pardon, pas des projets, et on fait des points d'avancement, et puis on s'entraide, il y a une émulation, il y a une bonne ambiance, on avait fixé nos valeurs au départ. Ensuite, on a invité Jacques Tardif, donc qui est un conférencier québécois, qui est très charismatique, donc on l'a pas choisi au hasard, moi je le connaissais très bien, il a accepté de venir. On a fait 2 conférences avec lui, puis je crois que là, maintenant, si on le faisait revenir, ça n'irait plus. Il faudrait changer de moyens de communication. Et bon, nous, il nous a beaucoup aidés. Il a aidé les référents aussi à démarrer. Il nous a donné du feedback sur des compétences que les référents avaient rédigées. Mais là, les enseignants ont envie d'autre chose. Ils ont envie de d'autres modèles aussi. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt une attitude positive, curieuse. Donc, on a affaire à des scientifiques, enfin, des esprits scientifiques, qui veulent toujours des preuves, des données probantes, s'appuyer sur la science, sur des ressources. Et puis, on a maintenant, j'en suis au stade, où on fait des ateliers très personnalisés. À la fois, je mets des dates et les viens qui veut. Et là, on travaille donc en interdisciplinarité. On peut avoir quelqu'un qui vient de la fac du sport, quelqu'un qui est de fac éco-gestion, et puis quelqu'un qui vient de l'UFR de droit. Et on va ensemble travailler les compétences qu'ils ont imaginées. Ou alors, des ateliers dans les composantes. Là, j'accompagne l'IUT sur 44 licences pro. Et on a un calendrier et on a rédigé les compétences pour les 44 licences. Et puis, on va faire aussi des formations au CIPE, donc des formations sur les approches programmes, des formations sur les approches par compétences avec des concepts, mais aussi de la réflexion. Et puis, des ateliers de formulation de compétences, tout bêtement, c'est très technique, mais voilà, il faut aider les gens à comment dire, formuler. Pour moi, c'est de la maïeutique. J'ai fait accoucher leurs esprits pour les aider. Alors, je suis incapable de les faire à leur place, mais je peux les aider à faire. Et puis, les portfolios aussi, on va mettre en place des formations portfolios. Alors, je vous ai donné quelques exemples. J'espère que c'est assez lisible. Donc voilà, à l'IUT, c'est une démarche top-down. Hein. À l'IUT, c'est très organisé. Il y a 23 départements. C'est une unité énorme. Il y a 2 sites géographiques essentiellement. Mais en fait, il y en a 5, mais il y en a 2 gros à Aix et Marseille. Et donc, le directeur de la formation a fait une grande réunion de tout ce qu'ils appellent les RAF, les responsables d'action de formation. Il a réuni les RAF. Il leur a dit, voilà, ça sera comme ça. Hein, voilà les points de rendez-vous, il y a des points de passage avec Anne. Ici, vous avez une maquette vide à concevoir, donc les compétences 1, 2, 3, 4, 5 pour chaque métier. Si votre licence pro prépare à 1, 2 ou 3 métiers, vous en ciblez maximum 3. Et après, vous remplissez ici une maquette avec les compétences à gauche et quels cours vont venir alimenter les compétences. Voilà. Donc c'est très cadré. Et moi, après, en atelier, je les aide à formuler compétences. Et on voit que quand ils ont formulé compétences, cette étape-là, elle vient toute seule. Voilà. Donc, c'est un exemple. Ensuite, à la fac de droit, donc j'ai aidé la vice-doyenne à formuler des compétences que je ne vous ai pas citées ici. Mais la réflexion est partie de la commission de formation de la fac de droit. Donc, il y a eu une commission avec des étudiants, des administratifs qui se réunissent tous les mois. Ils ont réfléchi et ils se sont fixés des objectifs ici. Et ils ont décidé, au lieu d'avoir le droit civil, le droit public et l'histoire du droit, d'aborder de façon progressive, en complexifiant ces familles en fait de situations, ces thématiques du monde juridique qui viennent de façon très progressive. Donc, c'est une approche programme. Voilà un exemple en odontologie. 6 compétences de l'odontologie construites avec l'équipe d'odontologie. Ici, la trajectoire de développement des compétences sur les 2 cycles. Les points d'évaluation avec des petits e sur chaque semestre sur les 5 ans. Compétences par compétences. Voilà. Donc, l'observation des parcours, c'est que ce qui était en approche court passe en approche programme pour aller vers l'APC. Ceux qui vont en approche programme n'arrivent pas forcément à l'APC, mais parfois à une vision du diplômé. Et que, si les compétences n'ont pas été définies en amont, on ne passe pas en APC. Si on a une vision du diplômé sans compétences, voilà, on reste dans une approche programme. Enfin, bon, nous, on estime que tout le monde peut faire un peu comme il veut. Donc, c'est une transformation bien engagée, avec une belle dynamique, où chacun va à son rythme et où on commence à avoir pas mal de production, de ressources. Alors, on s'est vite dit, si on se rapprochait des autres. On sait qu'il y a d'autres universités qui sont engagées dans une démarche de transformation. Donc, on a eu l'idée de les contacter, de proche en proche. Et puis, j'ai posé la question à plusieurs personnes, en disant, si on faisait un réseau, est-ce que vous adhéreriez? Et puis, il y a eu oui, oui, oui. Après, j'ai eu la chance de rencontrer Patricia, qui est venue à Marseille aussi pour une journée MIPNES. Et puis voilà, on s'est lancé, on a fait une petite réunion préparatoire au mois de mai, et le 29 juin, on a lancé le réseau RENAPSUP, qui a vocation à fédérer les établissements de l'enseignement supérieur qui s'engagent dans une démarche de transformation pédagogique. Donc on a créé un espace, c'est un espace collaboratif de réflexion et de partage des acteurs de la transformation, donc avec une plateforme numérique aussi, mais des temps d'échange en présentiel. Alors voilà les différents, quelques points d'étape de notre réseau. Donc on a aussi obtenu un financement lors de l'appel à manifestation d'intérêt en 2016 du ministère. On a obtenu 100 000 euros pour faire vivre ce réseau, la coordination, l'accompagnement par les pairs. Donc on va faire des petites journées d'accompagnement par les pairs dans plusieurs endroits de France, et puis aussi une composante recherche pour justement essayer de produire un peu des connaissances et observer ce qui se passe, interroger les enseignants, et puis après, plus tard, ça sera les étudiants sur cette transformation. Et surtout, l'idée, c'est de faire un travail entre pairs, un travail collaboratif pour mieux avancer. On a fait des petits groupes de travail thématiques pour le déploiement des approches, l'évaluation, la recherche, les portfolios, et puis c'est une liste non exhaustive, parce que plus on sera, plus on pourra faire de choses. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, ou si vous souhaitez rejoindre le réseau, vous mettez un petit mail, et puis après, je vous inscris dans le listing, et vous aurez toutes les infos et l'accès à la plateforme. Voilà, je vous remercie de votre attention.